autour de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver en direct, chers amis auditrices et auditeurs, avec Thibaut Baduel à la réalisation, pour changer totalement de perspective et de point de vue sur nous-mêmes, sur les autres et sur le monde en général, en nous interrogeant sur la manière dont les autres animaux voient et perçoivent le monde. Serait-il possible de se mettre dans l'œil d'un zèbre, d'un lion ou d'une abeille? Et pourquoi ça change tout? À commencer par notre propre perspective et notre regard sur la réalité, forcément subjective et infiniment multiple. Question aussi philosophique qu'éthologique, voire artistique, ouverte par notre invité, le philosophe des sciences, Thibaut de Meyer, dans un essai vertigineux intitulé « Qui a vu le zèbre ?» Point d'interrogation, l'invention de la perspective animale. Vous n'allez pas en croire vos yeux ni vos oreilles, d'autant que nous serons aussi en direct, en deuxième partie, avec l'écologue Thierry Laudet, spécialiste des sexualités animales et auteur du « Pacte des lions », un essai détonnant sur l'intense vie sociale des animaux sauvages. Autour de la question « Qui a vu les rayures du zèbre ?» Bienvenue pour regarder le monde avec d'autres yeux, d'autres points de vue que les nôtres. Ça s'appelle le perspectivisme, une voie entrouverte par le philosophe Gilles Deleuze dans ses cours sur Leibniz à Vincennes, archives INA du 15 avril 1980.
Et commence là une philosophie qu'il faut bien appeler de son nom, à savoir perspectivisme. Et c'est pas rien. Vous me direz, qu'est-ce qu'il y a de plus banal que l'expression? Un point de vue, de mon point de vue. Bon, c'est ça que fait la philosophie, moi je crois aussi. Si la philosophie c'est créer des concepts, qu'est-ce que c'est créer des concepts? Je crois que c'est engrosser des formules banales. Maintenant, les grands philosophes, ils ont chacun leur... Les formules banales avec qui, auxquelles ou par rapport auxquelles ils font des clins d'œil. Un clin d'œil du philosophe, c'est à la limite prendre une formule banale et se marrer. Et dire, vous savez pas ce que je vais vous mettre dedans. On entend ça tout le temps. Ah, tu comprends de mon point de vue. De mon point de vue, eh ben, je dirais ceci. Ça va pas loin.
Nous allons donc, comme nous y incite Gilles Deleuze, changer de point de vue et de perspective avec vous, Thibaut de Meyer. Bonjour.
Bonjour Caroline.
Merci d'être en direct avec nous. Autour de votre essai renversant à tous les sens du terme « Qui a vu le zèbre ?», l'invention de la perspective animale, parue aux éditions Les Liens qui Libèrent, rien d'étonnant à ce que le philosophe aussi interdisciplinaire et indiscipliné que vous êtes, Thibaut, professeur en philosophie des sciences et des techniques à l'université de Namur en Belgique, et choisi d'écouter cet extrait du cours de Gilles Deleuze sur Leibniz, car c'est bien ce perspectivisme, cette démultiplication des points de vue qui est à la source de votre réflexion, mais aussi du titre énigmatique de votre ouvrage, je le répète, « Qui a vu le zèbre ?». Vous partez en effet de quatre images, quatre photographies parues en 2016 dans la revue scientifique PLOS ONE, extraits de l'étude réalisée par le biologiste Tim Caro de l'Université de Chicago et son équipe, montrant, je l'explique pour nos auditeurs, on est à la radio bien sûr, un zèbre et ses rayures, vu par un humain, hein, petit a, photo petit a, et puis vu par un autre zèbre, photo petit b, petit c vu par un lion, hein, toujours le même zèbre, et petit d vu par une hyène. On a mis cette photo sur notre page Facebook pour que, chers auditeurs et auditrices, vous puissiez être troublés et la regarder. C'est ça qui a été le point de départ de votre réflexion, Thibaut de Meyer.
Oui, très bien. C'est en fait la conjonction entre, d'une part, les cours de Gilles Deleuze que j'avais écoutés de façon plus ou moins intensive et que j'avais suivi en écoute, évidemment. Hein. Et puis, à travers ces questions que Gilles Deleuze ouvrait autour de la perspective, je tombe sur cette image dans une revue scientifique. Et au moment où je la vois tout de suite, je me dis... Ici, il y a quelque chose d'important qui se passe. Il y a une question qui était ouverte par Gilles Deleuze autour du point de vue, qui est peut-être reprise par ces éthologues et qu'il la pose de leur façon et qu'ils y répondent avec leur matériel, avec leur méthode. Et c'est ça que j'ai voulu investiguer, en fait, faire une recherche de philosophie en faisant le pari, un pari que je partage avec un autre philosophe, William James, qui dit, mais en fait, il introduisait ses conférences comme ça, hein, mesdames, messieurs, vous savez, vous êtes toutes et tous philosophes, vous avez toutes et tous votre philosophie, et en fait, je fais un peu le même pari en lisant les scientifiques, et je me dis, en fait, ils font de la philosophie, et donc je lis les scientifiques comme on pourrait lire des philosophes. Et donc, dans cette construction d'image, je me dis, ici, il y a de la philosophie, qu'on pourrait appeler de son nom, perspectiviste.
Et qui nous renvoie, alors nous, spectateurs, parce que c'est très troublant, cette photographie. On ne peut jamais voir avec les yeux d'un autre. Et d'un seul coup, on se retrouve, zèbre vu par un zèbre, par soi-même, et on décale complètement la perspective. On change de point de vue, nous aussi, spectateurs ou lecteurs de votre ouvrage.
Oui, tout à fait. Donc, c'est un peu la question de... Déjà, ces images, quand on les voit, elles sont troublantes. Au début, on ne sait pas très bien quoi en faire. Et puis, tout de suite, il y a un ensemble de questions qui viennent. Hein, des questions, est-ce que c'est vraiment comme ça que les zèbres voient ?
C'est ça. Et comment est-ce qu'ils ont fait pour se mettre dans l'œil d'un zèbre, dans l'œil d'un lion qui voit un zèbre ? Ça paraît assez fou.
Oui, donc il y a toute la question de comment ils ont fait qui apparaît, qui doit venir assez vite. Et je pense que la question, c'est déjà un décalage important parce que le premier réflexe qu'on a très souvent et qu'on a hérité en fait d'une certaine philosophie, c'est de se demander est-ce que c'est vraiment comme ça que les animaux voient. Et changer cette question en disant mais comment s'y sont-ils pris pour construire ces images, c'est déjà un décalage parce que ça nous oblige à nous intéresser au processus scientifique, à se dire ces images ne sont pas simplement des images fixes qu'on voit maintenant, mais qu'en fait elles sont le fruit de toute d'un ensemble d'expériences, d'un ensemble d'observations, et qu'elles sont une sorte de stabilisation d'un processus en fait continu de croissance de la connaissance.
C'est ça, et de réflexion, et d'interrogation, et de questions finalement soulevées. Pas étonnant non plus si c'est Vinciane Després, philosophe des sciences, éthologue également, autrice du fameux « Que diraient les animaux si on leur posait les bonnes questions », qui fait la préface de votre ouvrage, parce que vous reliez vraiment éthologie et philosophie, étude des autres, humains ou non humains, c'est un peu la même chose.
Oui, tout à fait, donc c'était... ma directrice de thèse, c'est elle qui m'a invité quelque part en philosophie, c'est elle qui m'a invité vraiment à poser ces questions d'éthologie comme des questions philosophiques. C'est-à-dire, en fait, on ne peut pas faire des grands partages entre philosophie et science. Les questions philosophiques se posent au cœur même de la science. Et donc, c'est avec elle que j'ai appris la philosophie des sciences, la philosophie de l'éthologie. Et donc, je suis très contente qu'elle ait accepté de faire une préface.
Et puis c'est aussi, alors vous êtes tout de même un empêcheur de penser en rond, comme Vinciane Després d'ailleurs, parce qu'on n'a pas l'habitude d'intégrer les autres animaux dans notre réflexion philosophique. On a ce point de vue surplombant, humain, qui dit, voilà, notre manière de voir est la seule, l'unique. Et quand on se posait des questions sur les zèbres, on se posait des questions sur les rayures des zèbres. Pourquoi y a-t-il des rayures aux zèbres ? Mais pas tellement. Est-ce que les autres animaux voient aussi les rayures des zèbres ? Qui est une vraie question.
Et donc, c'est tout de suite hein, comment les images, ces quatre images du zèbre vont grossir, vont s'épaissir. Ben, c'est en allant voir dans quelle histoire elles s'insèrent, en fait. Et elles s'insèrent dans l'histoire de l'étude du camouflage, et en particulier de l'étude biologique pour savoir mais pourquoi les zèbres sont-ils rayés. Et c'est une question peut-être enfantine, mais qui a été posée très tôt par les biologistes. À l'époque déjà de Charles Darwin, on se posait ces questions-là. Et il y a une hypothèse qui va être un peu l'hypothèse dominante jusqu'à récemment, et qui va se baser en fait sur la vision d'un seul homme, Francis Galton, qui était un cousin de Charles Darwin, d'ailleurs, avec beaucoup de problèmes, disons, de politique. Il n'était pas biologiste, naturaliste en tant que tel, mais il avait envoyé, lors de ses voyages en Afrique, il avait une correspondance avec quelques scientifiques britanniques, notamment Alfred Wallace, à qui il l'envoie une remarque sur les zèbres en disant « mais c'est très étonnant, les zèbres en journée, je les vois depuis très très loin. Par contre, dans la pénombre, donc au crépuscule, au moment où les lions attaquent en général, dit-il, les zèbres, je les vois très très mal, comme si leurs rayures les rendaient indistincts de la pénombre. » Et donc, à partir de là, Wallace va relayer cette remarque dans les journaux scientifiques et l'hypothèse qui va avec, que ces rayures servent à se camoufler contre les grands prédateurs des zèbres.
Et c'est une hypothèse qui va perdurer, vous l'avez dit, mais qui aujourd'hui n'est plus du tout la seule hypothèse.
Et donc, au XXe siècle, c'était vraiment l'hypothèse, l'hypothèse majeure, dominante. Et ce qui est vraiment étonnant, c'est peut-être là-dessus qu'il faut vraiment insister, elle était basée sur l'observation
d'un homme,
basée donc sur la vision, les yeux humains. Et c'est, disons, ce réflexe d'étudier cette hypothèse à travers les yeux humains, en fait, c'est répété, et chaque fois qu'on faisait des tests sur cette hypothèse, on les répétait à chaque fois avec des yeux humains. Après, il y a quelques autres hypothèses, mais en disons dans des voies un peu souterraines, hein, des sciences. C'est comme ça que ça avance aussi les sciences. Hein, il y a toujours des différentes couches, hein,
des grands courants dominants, et puis des petits,
il y avait d'abord des hypothèses très intéressantes sur est-ce que les épreuves pourraient servir de communication, est-ce que ça pourrait avoir des enjeux sur la sélection sexuelle, est-ce que ça donc
plein d'autres hypothèses
sur la chaleur, par exemple. Est-ce que ça pourrait pas diminuer la chaleur des corps de ces zèbres qui vivent en plein soleil? Donc, plein d'autres hypothèses qui vont être testées, qui vont être, la plupart vont être rejetées pour l'une ou l'autre raison. Et puis, une hypothèse qui va apparaître dans les années 1920, qui suggère que ces zébrures pourraient être une forme de camouflage, mais non pas de camouflage contre les grands prédateurs, mais contre les insectes, les mouches, et d'autres formes de prédation, mais plutôt autour du...
La vision de ces tout petits animaux qui, justement, se font avoir par les rayures. Et ça montre bien qu'en fait, en science comme en philosophie, c'est la multiplication des points de vue qui permet d'arriver à quelque chose. Et si on croit qu'on a trouvé... sur notre propre point de vue humain, ça ne marche pas.
En se basant seulement sur notre propre point de vue, Galton et puis, disons, la biologie avaient admis cette hypothèse que les zébrures servaient de camouflage. Tim Carrow et son équipe va reposer et part, en fait. Il commence ses travaux en 2008 autour des zébrures.
Celui qui va faire ses photos.
Oui, c'est celui qui va faire ses photos. Sa première hypothèse. Dans ses premiers travaux, va reprendre cette idée de Galton en disant « mais les zébrures servent de camouflage contre les grands prédateurs ». Il reprend cette hypothèse et puis il se dit « mais il faut ». Et c'est grâce à la rencontre très importante avec Amanda Mellin, il se rencontre et Amanda Mellin avait fait d'autres travaux en prenant en compte la perspective des animaux. Et c'est à ce moment-là que les deux ensemble se disent « on doit tester cette hypothèse, mais plus à travers les yeux ». Humain,
mais à travers les yeux d'autres animaux. Voilà. Et c'est en se mettant dans le regard d'autres animaux
qu'ils viennent à rejeter cette hypothèse-là, parce que en fait, les zèbres sont perçus par, qu'ils soient zébrés ou non zébrés, sont perçus par les lions et les hyènes qu'à une très courte distance. En fait, ils commencent leur course bien avant. Leur course d'attaque, ils la commencent bien avant de percevoir le zèbre.
Et au fond, l'œil humain, il voit très bien le zèbre, presque mieux que les lions ou les hyènes,
qui sont ses prédateurs. C'est ça qui est assez étonnant
quand on regarde ces images. Vous citez aussi dans votre ouvrage Thibaut de Meyer, un des plus grands mathématiciens du XXe siècle, Alexandre Grothendieck, dans Récolte et sémaille. C'est dans la mesure où se conjuguent les points de vue complémentaires d'une même réalité, où se multiplient nos yeux, que le regard pénètre plus avant dans la connaissance des choses. Alors justement, autour de la question « qui a vu les rayures du zèbre ?», je propose de commencer par nous mettre dans l'œil et dans la tête. Alors, non pas du zèbre, on va aller du côté d'un de ses cousins, le cheval, avec une éthologue que vous connaissez, Léa Lansade, qui était récemment notre invitée, autour de son ouvrage « Dans la tête d'un cheval ». Je propose d'écouter un extrait de notre échange qui devrait vous intéresser, où il fut aussi question d'un peintre, parce que dans votre ouvrage, vous parlez aussi des artistes, d'un peintre qui a su se mettre dans le point de vue carrément panoramique du cheval, qui ne voit pas le monde en couleur comme nous. Éclairage de Léa Lansade et de Romain Simnel à écouter.
Alors effectivement, le cheval ne voit pas les couleurs comme nous. Nous sommes trichromates, donc nous voyons dans le rouge, le vert, le bleu. Et le cheval, lui, il lui manque la gamme du rouge.
Il ne voit pas le rouge, il le voit comme les
nuances de vert. Voilà. D'accord. Il lui manque une couleur par rapport à nous. À l'inverse, les oiseaux, beaucoup d'oiseaux ont une quatrième couleur. Ils peuvent voir dans les UV. Et donc nous, on en voit trois. Le cheval, deux.
Et pourtant, il a un sens de la vision, enfin une vue très développée et une manière de regarder qui est plus forte que la nôtre.
Hein, plus panoramique.
Plus panoramique que la nôtre. Voilà, c'est ça.
Qu'effectivement, hein, quand on regarde un cheval, il a ses yeux placés de façon latérale, donc il voit tout autour de lui.
Pratiquement
tout autour de lui, autour. Avec juste des très légers mouvements de la tête, il voit tout autour de lui.
Autour de la question, comment se mettre dans l'œil d'un cheval? Comment les chevaux voient-ils le monde? Un peintre expressionniste a tenté de le montrer, c'était au début du siècle. Il s'appelle Franz Marc et c'est l'anthropologue et grand voyageur Romain Simnel qui nous le rappelait ici même, en étant récemment notre invité, je propose de l'écouter.
Il s'est carrément mis dans la tête d'un cheval, et puis il y a longtemps en plus, c'est Franz Marc, donc il était vraiment précurseur, on va dire. Et donc il peignait en fait des paysages tels que vus par les chevaux. Et c'est vrai que c'est, quand on voit ces peintures, c'est très abstrait, et l'espace n'est pas du tout tel que l'humain se le représente. Donc ma question, c'est de savoir si l'intuition, finalement, de Franz Marc a essayé de restituer en fait les paysages tels que vus par les chevaux, est-ce que ça a un sens aujourd'hui pour une éthologue et pour les sciences de l'éthologie? Est-ce qu'il était quelque part un précurseur? Est-ce qu'il a eu cette intuition avant les éthologues? Et est-ce que ça parle aux éthologues? Voilà.
Alors, l'éthologue Léa Lansa, dans notre studio, avait répondu « Oui, absolument, les chevaux ont cette vision panoramique retranscrite par le peintre Franz Marc. » Qu'est-ce que ça inspire au philosophe que vous êtes, Thibaut Demier?
Donc, c'est vraiment un pont que j'ai découvert, en fait, en faisant ces recherches autour des images perspectivistes. Hein, c'est qu'en effet, la plupart des images perspectivistes trouvent leur origine dans des œuvres artistiques, autour du zèbre, d'ailleurs. Un des premiers scientifiques, un des premiers naturalistes vraiment à prendre en compte le point de vue des prédateurs sur les zèbres, c'est Tailleur, qui est un peintre naturaliste. Mmh. Et donc, il a cette sensibilité d'artiste. Et c'est autour de ses compétences de peintre, c'est lui-même qui le dit, hein, c'est grâce à mon œil de peintre, que j'ai compris qu'il faut prendre en compte les points de vue des animaux quand on étudie. Lui, il était spécialiste des robes des animaux, donc notamment des couleurs des animaux, etc. Et donc, vraiment, on trouve, en effet, chez les artistes, des intuitions qui, par la suite, peuvent vraiment avoir des retentissements scientifiques importants.
C'est assez étonnant, et ce parallèle, vous le faites constamment. Le sous-titre de votre livre, qui a vu le zèbre, c'est l'invention de la perspective animale. Cette perspective animale, elle nous apporte énormément de choses. C'est-à-dire que d'un seul coup, on se décentre de notre propre perspective, voire de la perspective inventée au moment de la Renaissance italienne par d'autres peintres.
Donc c'est un petit peu le clin d'œil dans ce sous-titre. Hein, souvent, on parle de l'invention. Et la philosophie s'est surtout intéressée à l'invention de la perspective au XVe siècle en Italie. Et on s'est intéressé, je pense, à raison, en fait, à la perspective italienne, à la perspective
par
en peinture, par la peintre, parce qu'elle va instaurer un type de rapport au monde où on a un concept d'espace vide qu'on vient remplir avec des lignes qui sont prédéfinies avant de commencer à peindre. Cette perspective, et donc le but de la perspective en peinture, c'était d'arriver à faire glisser la façon dont un observateur supposé humain voit le monde, voit une scène, et de glisser cette façon de voir sur un tableau en deux dimensions. Donc, toute la difficulté est évidemment de passer de la tridimension.
Et il y a plein d'autres perspectives. Au fond, c'est ça que vous voulez mettre en avant. C'est ne nous arrêtons pas à cette unique perspective.
Ici, on s'est, avec la peinture perspectiviste, quelque part, on s'est focalisé encore plus autour du point de vue humain, avec toute une conception d'anthropocentrisme, où on va mettre l'humain au cœur du monde. Je pense, avec des tentatives au début du siècle dernier, et qui se renforcent peut-être actuellement dans les sciences, ça reste une science minoritaire, hein, je pense que c'est pas... une science où on peut découvrir peut-être les prémices d'une autre façon de se rapporter au monde, d'une autre conception du monde où les humains ne sont pas nécessairement au centre,
d'autres relations
peuvent avoir des relations multiples avec un ensemble d'autres êtres.
Avec donc, d'autres, humains ou non humains. Ouvrons les yeux, hein, c'est un peu ça qu'on pourrait dire. Ça pourrait être un joli mot d'ordre, d'ailleurs. Mm-hmm. Ouvrons les yeux, tous nos yeux et toutes nos perspectives. Qui rejoint d'ailleurs votre choix musical, Thibaut de Meyer, qu'on est ravis de partager. Il s'agit de What a Wonderful World, titre magnifique de Louis Armstrong sur RFI, juste pour le plaisir et l'émerveillement.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more. What a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Avec Louis Armstrong sur RFI, What a Wonderful World. Quand Armstrong chante le vert des arbres, le rouge des roses, le bleu du ciel, il nous dit en gros d'ouvrir les yeux, Thibaut de Meyer.
Oui, en effet. Donc il y a ce choix. En fait, je l'ai un peu volé à un autre livre qui est paru récemment de Ed Young, un très beau livre, Un monde immense, où il parle également de cette chanson pour dire, mais en effet. Toutes ces couleurs sont merveilleuses, mais peut-être ce qu'on ne retrouve pas dans la chanson d'Armstrong, c'est qu'elles sont peut-être encore plus merveilleuses que ce qu'on pourrait imaginer à partir du moment où on les multiplie par les centaines d'espèces qui les perçoivent. Et ça, c'était un des aspects où on est parti, et c'est de là que je suis parti, d'une perspective qui intéressait les scientifiques pour mieux poser des questions par rapport aux zébrures, par exemple, par rapport à un ensemble d'autres questions, où au moment où on veut se poser vraiment les questions, on doit prendre en compte le point de vue des animaux avec lesquels on travaille. Mais il y a une autre lignée, d'une autre façon de travailler la perspective, que j'ai appelée la perspective laudative. Hein, c'est une perspective qui célèbre, qui loue.
Et
on trouve des très belles œuvres, notamment chez les artistes, hein, mais pas seulement, où on va chercher à travailler la perspective animale pour célébrer le monde. Hein, c'est notamment ce qu'on trouve chez Uxküll.
On en a besoin de célébrer le monde et il devient plus merveilleux quand on le remplit de perspectives. C'est évident. Autour de la question « Qui a vu les rayures du zèbre ?» Ben justement, nous multiplions les perspectives car nous sommes également en direct, en audio, via Teams, avec vous, Thierry Laudet. Bonjour Thierry.
Bonjour, comment allez-vous ?
Bien, bien, bien. Nous sommes ravis de vous avoir en ligne. Vous êtes écologue, spécialiste des sexualités animales, professeur d'écologie évolutive et directeur de recherche à l'Université Rennes 1, auteur Thierry de nombreux ouvrages passionnants qui ont élargi notre perspective justement sur les autres animaux. Cette fois-ci, vous venez de publier donc un nouvel essai paru chez Odile Jacob et dont nous avons d'ailleurs un exemplaire à vous offrir. Chers amis auditrices et auditeurs, votre ouvrage, Thierry, s'intitule « Le pacte des lions ». Sous-titré « Une socio-écologie de la vie sauvage ». Et vous nous y ouvrez finalement une autre porte de compréhension. Cette fois-ci, ce n'est pas tant que ça sur le regard des autres animaux, mais l'importance des rapports sociaux chez les animaux sauvages, à commencer par les lions. Au fond, il s'agit de regarder aussi autrement les lions, les loups, les fourmis, les mangoustes, de changer de perspective et de les voir en collectif, ces animaux sauvages.
Oui, parce que tous ces animaux prennent des décisions entre eux et que la manière dont ces décisions sont prises entre eux, bon, c'est une manière relativement démocratique, anti-autoritaire, tout à fait passionnante dans le monde qu'on est en train de connaître, parce que précisément cette façon de faire bouleverse aussi leur propre évolution.
C'est-à-dire qu'au fond, leur regard, leur lien, leur rapport jouent sur l'évolution. Vous parlez d'écologie évolutive et donc ne nous arrêtons pas à un simple point de vue ou à une simple réponse sur l'évolution. C'est multiple, les comportements sont multiples, mais toujours en société.
De toute façon, oui, puisqu'on commence toujours sa vie en groupe et que c'est d'abord de ce groupe que vont se faire les réticences à se disperser, donc de rester dans le groupe, ou au contraire, de partir au loin, vivre sa propre vie de manière, on va dire, provisoire. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'il y a un aspect de saisonnalité dans toutes les perspectives animales et que ce qu'on observe à un moment donné sera très différent à un autre moment donné, y compris pour la même espèce, et puis selon les endroits aussi. Hein. Enfin, par exemple, le régime alimentaire des lions change complètement dès qu'ils sont sur la côte des squelettes en Namibie, de ce qu'elle est lorsqu'ils sont dans le parc Kruger. Dans un cas, ils vont plutôt chasser des phoques, alors que dans l'autre cas, ils vont chasser des buffles, ce qui change complètement aussi leur manière de vivre, de se structurer, puisque toute écologie, c'est d'abord une grande structuration de la vie animale.
Et végétale. Et végétale, absolument. N'oublions pas les végétaux aussi. On va rester là quand même sur les animaux. On parlait du zèbre, on parlait du lion. On parlait du lion qui voit le zèbre et du zèbre qui voit un autre zèbre. Pour vous aussi, Thierry Laudet, cette question de la perspective, de changer de perspective et de regarder sous tous les angles, vous le dites, suivant les saisons, le temps, c'est fondamental, c'est essentiel pour comprendre à la fois les autres animaux et nous aussi.
Oui, d'autant que le débat sur la vie sociale des animaux a été en grande partie pollué par les hypothèses qu'on avait faites sur les insectes dits sociaux, oui. Notamment les fourmis, les abeilles, etc., dans lequel on était parti d'une hypothèse très très génétique dans les années 80 et qui est venue endormir justement toute la perspective de la socio-écologie, c'est-à-dire de l'étude des interactions écologiques et de leur rôle dans tout cela. Or pourtant, évidemment, ces animaux-là, il n'y a rien de plus démocratique que par exemple une société d'abeilles, quand les abeilles quand l'essaim d'abeilles quitte la ruche, par exemple, toutes les décisions sont prises par quorum, par des décisions particulières, ce qui nous change complètement d'une vie autoritaire qu'on pourrait penser dans la vie courante.
C'est ça, il faut changer de perspective. Est-ce que vous voulez réagir là-dessus, Thibaut Demeyer, ce que vient de dire Thierry Laudet, parce qu'il nous raconte une autre histoire, en fait, d'autres histoires.
Il nous raconte d'autres histoires, mais je pense que l'étude de la perspective est tout de suite écologique. Donc je pense que là-dessus, on voit... Par exemple, quand on se pose la question pourquoi on veut savoir comment le zèbre est vu par les lions, ben, les scientifiques, c'est parce que les zèbres et les lions interagissent, ont des relations entre eux, des relations ici de prédation, de proie. Et donc, la perspective, en fait, ouvre tout de suite des questions de type écologique. Ce n'est pas la seule façon de rentrer dans les questions d'écologie, mais c'est une voie d'entrée dans les questions d'écologie.
Et parce que, de toute façon, tout est aussi question de rapport. C'est ce que vous montrez tous les deux. Enfin, comment on voit les autres, comment on interagit avec les autres. On est toujours les animaux sont toujours en interaction.
Oui. C'est d'ailleurs une des très belles phrases dans le livre de Thierry Laudet. Hein, vivre consiste irrémédiablement, nous dit-il, à se mêler de la vie des autres. Et je pense que c'est quelque chose que j'essayais de travailler un peu dans mon livre d'une toute autre façon, en montrant que les scientifiques continue peut-être quelque chose quand il se mêle de la vie des autres animaux. Ben, les scientifiques font peut-être quelque chose qui est de la continuation de la vie, qui n'est pas une rupture avec ce que tous les êtres vivants font, toujours se mêler de la vie. Des autres êtres.
Magnifique, Thierry Laudet, quand Thibault vous cite, enfin, vivre, c'est s'occuper de la vie des autres, c'est se mêler de la vie des autres. C'est quand même toujours ça.
C'est obligatoirement se mêler de la vie des autres parce que le vivant sur cette planète, depuis ses tout débuts, s'est d'abord organisé, s'est structuré en écosystèmes qui sont variables, qui vont changer d'une année à l'autre, d'une saison à l'autre, d'un moment à l'autre. Et donc ce contexte particulier qui structure les êtres vivants va avoir un rôle essentiel dans toute l'évolution. C'est une démarche qu'avait ratée Darwin d'ailleurs, mais qui est très importante à considérer de nos jours, puisque c'est dans cette perspective-là, justement, qu'on peut comprendre comment la vie sur la planète s'est élaborée d'un animal à l'autre, d'une espèce à l'autre, d'un humain à l'autre, à travers cette structuration des interactions. Nous sommes tous un flux d'interactions depuis notre propre naissance.
Et c'est comme si c'est quelque chose qu'on avait un peu oublié. Enfin, les interactions nous placent. C'est pas tellement un niveau d'égalité, mais comme si on l'avait un petit peu oublié. Et en même temps, il y a une tension aussi là-dedans. C'est que, pour en revenir à la question du regard, il n'y a pas un regard qui soit parfaitement objectif. Mais au fond, il n'y a que des regards subjectifs. Et il y a aussi, dans chaque espèce, des individus. Donc on se retrouve à chaque fois devant des questions entre subjectif, objectif, la réalité, pas la réalité. Et ça concerne les philosophes.
Oui, je pense que dans ce que vous dites, on retrouve par exemple des intuitions qu'ont travaillé les philosophes comme Nietzsche, par exemple, où il va nous dire, mais si on veut connaître un objet, ben, il faut augmenter, il faut arriver à activer un maximum Dieu sur cet objet, hein, activer, c'est les termes qu'il utilise, activer des yeux. Hein, et donc, c'est ça qu'on voit à l'œuvre chez les scientifiques, activer des yeux et donc activer quelque part du subjectif pour avoir une plus grande objectivité. Hein, et donc, quand on se pose des questions sur la réalité, en fait, il faut se poser des questions parce que ça fait partie de la réalité. La subjectivité n'est pas quelque chose d'extérieur à la réalité, c'est vraiment toutes ces visions, toutes ces perspectives participe à la construction de la réalité. Donc, c'est normal que quand des scientifiques se posent des questions sur la réalité, ben, ils doivent en passer par ces perspectives.
Thierry Laudet, justement, sur cette perspective et sur ce regard des scientifiques qui doit être objectif, mais qui, en même temps, ne peut qu'être une multiplication de regards subjectifs.
Oui, on est forcément un peu coincé ou pas d'ailleurs par cela, mais la question essentielle, c'est effectivement pourquoi ces interactions sont-elles présentes sur la planète Terre depuis les tout débuts de l'évolution, comment ces interactions se sont-elles petit à petit construites pour former notre propre évolution, et effectivement comment au milieu de tout ça, selon la perspective, selon le contexte, on va pouvoir prendre des décisions, changer de ton. Hein. Vous savez, par exemple, la coopération chez les oiseaux est un acte très complexe, d'autant qu'en biologie, on n'a pas vraiment de définition de ce que ça veut dire ce mot coopération, donc on est... On est un peu obligé de le découvrir à travers des descriptions comportementales qu'on se fait nous-mêmes avec nos propres yeux.
Et donc, bien sûr.
Ça limite de beaucoup la compréhension réelle. Mais c'est très, très passionnant de comprendre que ce monde-là, ce monde écologique qui est devant nous, cette construction radicale, elle s'est formée depuis la nuit des temps et qu'elle résiste activement à sa propre destruction, à sa propre mort. Alors que pourtant, on peut dire que ces derniers temps, l'humain passe beaucoup de temps à réduire à néant toutes ces interactions écologiques et tout cet intérêt d'une planète vivante.
C'est ça. Donc comment justement mettre en lumière, au fond, toutes ces interactions et tout ce vivant qui se débrouille très bien et qui a toutes ces perspectives possibles autour de la question qui a vu les rayures du zèbre ou la danse de l'abeille. Tiens donc, Thierry Laudet, vous parliez des abeilles. Je vous souhaite un nouvel éclairage, aller dans la tête et dans l'œil d'une abeille, justement, avec l'éthologue Mathieu Lioro, auteur d'un ouvrage qui s'intitule tout simplement « À quoi pensent les abeilles ?» On écoute Mathieu Lioro.
L'abeille est un insecte extrêmement visuel, elle a très très gros yeux, vous les avez tous vus. Ses yeux seulement, ils sont composés de plein de petits yeux. Donc c'est très différent des nôtres. Ses yeux voient en couleur, elle voit très bien le bleu, voit très bien le vert, et elle voit les ultraviolets que nous ne voyons pas. Elles ont également des yeux au-dessus de la tête, que vous n'avez peut-être jamais vus. Elle a trois petits yeux au-dessus de la tête qu'on appelle les ocelles, et qui permettent de voir la lumière polarisée. Donc ça, c'est la lumière du soleil qui se charge électromagnétiquement et qui forme un patron dans le ciel qui nous est invisible à nous, mais qui est visible aux abeilles. Elles voient les ondes électromagnétiques et ça leur permet de connaître la position du soleil dans le ciel à tout moment, même quand le soleil n'est pas visible directement, comme par exemple quand il y a des nuages.
Qui veut réagir à cet éclairage, j'ai envie de dire presque poétique, de Mathieu Liorot, le monde des abeilles, Thibaut de Meyer n'est pas le même que le nôtre.
Non, n'est pas le même que le nôtre. Et en fait, il est apparu assez tardivement chez les biologistes, hein, seulement.
Très récemment.
Oui, mais disons au début du XXe siècle.
Au début du XXe siècle.
Des intuitions et puis des travaux. Et puis comment on les prenne, il y a aussi tout plein de travaux qui tentent de prendre donc en compte quand ils étudient les insectes, de prendre en compte leur point de vue.
Ouais.
Et très rarement, par contre, ils vont passer par les images, parce que contrairement aux lions, les hyènes, en quelque sorte, qui ont une vision un peu moins bonne que les humains, qui facilitent le travail de la mise en image, quand on travaille avec des insectes ou d'autres animaux qui voient à la limite mieux, en tout cas qui voient autre chose, plus loin
que les humains,
ça devient... disons, le défi devient plus grand, mais ils ont certaines techniques. Hein. Par exemple, ils vont utiliser ce qu'on appelle des pseudo-couleurs. Donc, ils vont faire concorder certaines couleurs UV, certains rayons UV, à des couleurs visibles par les humains. Et c'est comme ça qu'ils peuvent voir apparaître certaines formes sur des fleurs qui ne semblent pas particulières pour nous. Et puis, on voit... qu'elles peuvent ressembler très attirantes.
C'est ça, ou les oiseaux qui voient aussi les ondes électromagnétiques. Thierry Laudet, en tant qu'écologue, justement, vous voulez réagir à cet éclairage sur l'œil des abeilles, ou peut-être il y a d'autres yeux qui vous ont interpellé, qui vous ont ouvert votre perspective.
Notamment le nez, c'est un des yeux, un des œils qui m'a le plus interpellé, parce que les odeurs ont une importance capitale dans la vie sociale de nombreuses espèces animales, y compris chez la nôtre. Hein, notre propre comportement amoureux dépend en très grande partie de notre capacité à isoler des substances particulières de notre système immunitaire qui nous permet de prendre du plaisir quand on parle avec les autres, quand on entend les autres et quand on leur parle vraiment très activement à droite du cœur.
Donc c'est vraiment nos sens, au fond, à tous les sens du terme, tous nos sens et tous les sens des animaux qui en ont parfois plus, parfois moins. Il y a pas mal de questions de nos auditeurs là-dessus. C'est avec tous nos sens qu'on perçoit le monde, et donc essayer de se faire un peu plus petit et d'imaginer, Thibaut de Meyer, que d'autres animaux ont aussi des sens magnifiques. Vous parlez aussi de l'araignée qui peut-être, qui sait, construit le monde avec sa toile,
voilà, et donc
ou à une autre perspective presque artistique.
Oui, et donc ça, c'est une hypothèse lancée, dans une parenthèse, par l'éthologue allemand Jacob von Uexküll dans les années 30. Hein, et il écrit en fait cette belle phrase de la toile d'araignée. Il dit que la toile d'araignée est peut-être la copie la plus fidèle de la mouche. Et pourquoi dit-il ça? Parce que, évidemment, physiquement, la toile d'araignée n'a aucun rapport avec une mouche. Par contre, il dit, c'est l'araignée prend en compte de façon très précise la façon dont la mouche perçoit le monde pour créer une sorte de négatif de cette vision pour attraper
pour l'attraper.
Donc, il travaille cette toile d'araignée comme une sorte d'image perspectiviste que les scientifiques peuvent faire par après. Mais il dit, ces toiles d'araignée prennent en compte la perspective de l'abeille quand ils la construisent.
C'est très étonnant, comme quoi les animaux arrivent à prendre en compte d'autres perspectives que les leurs. Sont-ils plus forts que nous, qui sommes aussi des animaux? Autour de la question empruntée à votre essai, Thibaut de Meyer, qui a vu le zèbre et les rayures du zèbre? On continue d'ouvrir tout grand nos yeux et nos oreilles à l'écoute cette fois-ci d'un musicien finlandais, Jimmy Tenor, dans la playlist du mois sur RFI. Jimmy Tenor nous entraîne jusque dans sa tête, In My Mind, et ça change aussi de perspective.
My mind is an open book for you, honey. You can read me as you like. My mind is an open book for you, honey. Read me.
Finlandais Jimmy Tenor, My Mind, à l'esprit ouvert. Et dans la playlist du mois sur RFI, tout est une question de point de vue, mais justement, comment les multiplier, ces points de vue, ces perspectives, et pourquoi ça change tout autour de la question « Qui a vu le zèbre ?», question empruntée à votre ouvrage, à votre essai renversant sur la perspective animale, Thibaut de Meyer. Nous sommes également en ligne avec l'écologue Thierry Laudet, auteur du Pacte des lions, et pour boucler la boucle, si j'ose dire, je propose un dernier éclairage. C'est celui de la philosophe et éthologue Vinciane Després, qui a préfacé votre essai, Thibaut de Meyer, et qui cite elle aussi le philosophe Gilles Deleuze, avec qui nous avons ouvert cette émission. Vinciane Després reprend la définition de l'éthologie de Gilles Deleuze avec cette question.
Qu'est-ce que c'est que l'éthologie? C'est une science pratique des manières d'être. Et qu'est-ce qu'il veut dire par manière d'être? La manière d'être d'un éléphant n'est pas la même manière d'être que d'une vache, n'est pas la même manière que d'un ours, que d'une araignée. Et puis il va continuer, il va préciser. C'est la science pratique des manières d'être, c'est-à-dire on étudie des vies, en fait. Je pense que les éthologistes font un boulot formidable, et je vais dire par là qu'ils font un travail qui, d'une certaine manière, augmente l'intelligence dans ce monde. Je veux dire en rendant sensible et perceptible des multiples façons d'être volé pour un oiseau, connaître un courant thermique, c'est une sagesse. C'est peut-être pas seulement une intelligence, ce sont des sagesses. Et donc, ce sont des sagesses animales qui me passionnent.
Vous voulez réagir, Thibaut de Meyer, à cet éclairage de Vinciane Després, qui parle même pas d'intelligence animale, faudrait-il encore définir l'intelligence, mais presque de sagesse animale, finalement.
Des sagesses qui est un terme qui fait plus, peut-être, que le terme d'intelligence, référence à des façons de vivre,
à une manière d'être.
Et donc, quand elle parle de sagesse, c'est vers là qu'elle va, évidemment. Et en effet, les oiseaux, par exemple, ont une toute autre conception de l'espace, alors que nous, on a un espace, disons, plat, où on ne s'intéresse pas tellement à ce qui se passe au-dessus de nos têtes et en dessous de nos pieds. On regarde devant nous, on s'intéresse assez peu à ce qui se passe derrière. Dès lors qu'on vole ou qu'on nage dans les océans, ce qui est devant, derrière, en dessous, au-dessus, prend une toute autre signification. Et donc, c'est notamment ça, je pense, que le travail des éthologues, des biologistes,
c'est de nous faire toucher cette autre manière d'être au monde, où on parlait des yeux, de la vision panoramique des chevaux. J'ai envie de citer, et de vous citer, Thierry Laudet, cette réflexion d'une de nos fidèles auditrices à Madagascar, Mamie Rakoto Miaou, qui nous dit, mais au fond, chaque être vivant voit le monde avec ses yeux, qui sont le reflet de sa nature, et voir son monde, c'est certainement aussi percevoir sa société. En étudiant comment biologiquement un animal voit le monde, peut-on apprendre quelque chose sur l'organisation de ces sociétés animales? Thierry Laudet, c'est évidemment à vous que je pose la question, parce que c'est un peu votre travail.
Bien entendu, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'écologie, c'est d'abord la science du vivre au monde, la science de vivre ensemble au monde. C'est-à-dire que les oiseaux, ils ne volent pas parce qu'ils ont envie de voler, ils volent parce que, conjecturellement, à travers toute leur évolution, s'est construite chez les oiseaux la nécessité de voler ensemble, et de voler contre d'autres oiseaux, avec d'autres oiseaux, de se parler, de discuter, de vivre ensemble, comme beaucoup d'espèces animales. cette construction du vivre ensemble dans une écologie de la planète, elle est la seule possible. On n'en aura pas d'autres planètes de ce genre. Mm-hmm. Et c'est bien entendu ça qu'il faut imaginer et essayer de comprendre à travers le travail scientifique permanent qu'on peut faire, mais avec toutes les petites observations du monde. Hein. On a de la science collaborative tout à fait passionnante.
Absolument.
Aussi.
C'est ça, tout le monde, chaque regard compte finalement, et on peut dire quand même qu'il y a urgence, et c'est ça qui vous rassemble tous les deux. Il y a urgence à élargir notre perspective, notre regard, à arrêter cette bipolarisation à tous les niveaux, et qu'on ressent bien, il y a vraiment urgence. Il y a urgence sur notre planète, écologiquement, il y a urgence politiquement.
Politiquement,
aussi aujourd'hui,
oui.
Hein, on est d'accord, tous les trois, je crois.
Oui, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de... Il y a beaucoup de...
Mais ça pourrait être une piste, enfin, je veux dire, un vrai message, je trouve, entre regarder le monde, ouvrir les yeux, penser qu'il y a d'autres manières vivre, d'habiter, qui sont ni mieux ni moins bien, enfin, qui sont autre chose.
Et d'autres manières, ça signifie, et c'est peut-être aussi là que la question de la perspective, c'est de dire, mais comment prendre concrètement, éthiquement, en compte ces perspectives? Et en effet, ça peut avoir coût, mais je pense que ça peut aussi avoir beaucoup de plaisir de voir ce monde merveilleux s'épanouir. Se cloîtrer dans notre propre perspective, c'est éliminer, en fait, à la longue, c'est ce qu'on est en train de devenir, la diversité des perspectives, et c'est, en fin de compte, fermer nos propres yeux à nous aussi, sur une planète qui ne pourra plus voir, qui ne pourra plus faire exister ni d'autres êtres vivants, ni des êtres
C'est
humains.
Ça, on est obligé aujourd'hui, finalement, ça nous oblige, on est obligé d'ouvrir les yeux et d'ouvrir les yeux sur les autres.
Il n'y a pas vraiment d'autre
solution, Thierry Godet.
Vous avez tout à fait raison. Vivre dans un monde merveilleux, ça a des exigences pour nous. Ça nous oblige, en effet, à regarder comment les autres vivent, comment les autres espèces vivent, et puis y compris comment les hommes s'emparent de leur propre prise de décision au milieu de tout ça, actuellement fortement catastrophique. Hein.
On est d'accord. Et comme on est fait tous pour vivre les uns avec les autres. Je vous remercie vraiment. On pourrait continuer parce que c'était passionnant.
Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été
en direct avec nous. Merci Thibaut de Meyer. Je rappelle le titre de votre livre, renversant, je l'ai dit, à tous les sens du terme. Qui a vu le zèbre? Point d'interrogation. L'invention de la perspective, paru aux éditions Les Liens qui Libèrent. Et puis Thierry Laudet, merci d'avoir été en ligne avec nous. Je renvoie sur votre nouvel essai passionnant, stupéfiant comme toujours, Le Pacte des Lions, paru chez Odile Jacob, une socio-écologie de la vie sauvage, ouvrage où nous avons un exemplaire à vous offrir, chers amis, auditrices et auditeurs. Merci vraiment à tous les deux, Thierry et Thibault, pour ce changement de perspective, salutaire et solidaire, on en a bien besoin aujourd'hui. Merci à vous.
Merci Caroline.
Pour nous contacter, autour de la question, @rfi.fr.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez nous retrouver en rediffusion ce soir à 23h, temps universel. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à notre podcast. Au plaisir de vous retrouver demain avec Thibaut Baduel à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses. Autour de la question, pourquoi faire l'éloge du bug? Tiens donc à l'ère numérique, avec un autre formidable empêcheur de penser en rond, le professeur Marcello Vitali Rosati de l'Université de Montréal, qui est titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les écritures numériques. À demain, si vous le voulez bien. Merci pour votre curiosité. Surtout, gardons l'esprit libre et ouvert à tous les possibles et à toutes les perspectives imaginables. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure de retrouver les infos.